VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du vendredi 15 mai 2015, à la une ce soir.
Au Burundi, la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza a échoué. Que faut-il attendre des prochaines semaines et notamment des élections?
Dans son discours beaucoup attendu, déjà disponible sur Internet, le président Pierre Nkurunziza félicite l'armée, la police et la population.
Pour parler sur la crise malienne, la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale était prévue aujourd'hui à Bamako, un document que les rebelles refusent toujours de signer.
B.B. King n'est plus, le roi du blues est décédé hier soir à l'âge de 89 ans chez lui à Las Vegas où il recevait des soins médicaux.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est de retour à Bujumbura après l'échec de la tentative de coup d'État contre lui. Plusieurs leaders des putschistes ont été arrêtés, mais des informations contradictoires circulent au sujet de leur chef, le général Godefroy Niyombare. Certaines sources affirment qu'il est lui aussi arrêté, d'autres le disent en cavale. On a parlé avec notre confrère Léon Massengo de Radio Bonesha à Bujumbura un peu plus tôt dans la soirée.
Dans son discours beaucoup attendu, déjà disponible sur Internet, le président Pierre Nkurunziza félicite l'armée, la police et la population et minimise les mouvements de contestation dans la rue. Dans l'après-midi de ce vendredi, les manifestations ont commencé timidement dans la capitale Bujumbura pour se consolider dans des quartiers comme Musaga, Jabé, Kanyosha et Nyakabiga. Les manifestants et les policiers sont toujours face à face. La radio-télévision nationale a montré à la mi-journée de ce vendredi trois putschistes, dont le général Cyril Ndayim, qui est ancien ministre de la Défense du Burundi, et le porte-parole du comité pour la concorde nationale, Zeno Ndabaneze, qui ont été arrêtés dans un quartier appelé Kibenga, vers le sud de la capitale Bujumbura. Mais la grande question qui s'oppose ou inquiétude, c'est la répression qui risque d'être aveugle et globalisante, aussi bien pour les putschistes que pour ceux qui ont soutenu de près ou de loin le putsch. Des arrestations de gens en cascade ont déjà commencé. L'autre défi pour le président Nkurunziza, comment organiser les élections en deux semaines dans son contexte de crise politique et sécuritaire. Léon Massengo, Bujumbura, La Voix d'Amérique.
Voilà Léon Massengo de Radio Bonesha qui nous parlait un peu plus tôt dans la soirée, mais nous l'avons maintenant en direct de Bujumbura. Alors Léon Massengo, finalement, le discours du président a bel et bien été prononcé.
Oui, le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, vient de prononcer son discours après plusieurs jours de tentative de coup d'État. Le président Nkurunziza qui était rassuré et qui a appelé les gens à plus de prudence et qui a appelé à l'apaisement et qui vient de demander à ce que tous les Burundais pensent à l'avenir démocratique du pays. Voilà, le président Nkurunziza vient de prononcer son discours sur les ondes de la radio-télévision nationale du Burundi.
Comment est la situation dans les rues de Bujumbura ce soir?
Eh bien, la soirée est tombée et tout le monde se précipite dans les ménages. Les gens ne sont pas encore rassurés. Les rues sont presque vides, mais dans plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura, des barricades encore dans les rues. Ils sont érigés et les jeunes manifestants qui sont dans la rue depuis plus de deux semaines contrôlent le mouvement de passage s'ils ne vous donnent pas l'autorisation de passer, vous ne passez pas et vous devez vous expliquer un peu.
Merci Léon Massengo de Radio Bonisha, joint à Bujumbura au Burundi.
Pour parler de paix sur la crise malienne, une dizaine de chefs d'État africains et des représentants de plusieurs organisations internationales sont à Bamako ce vendredi 15 mai pour la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Un document que la coordination des mouvements de l'Azawad refuse de signer. Au même moment, à Ménaka, les combats continuent entre la CMA et les forces pro-gouvernementales. On fait le point avec Kassim Traoré.
Les Mali, les groupes d'autodéfense se réunissent au sein de la plateforme, les pays de la médiation, la France, vont signer l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Une grande cérémonie qui réunit 10 chefs d'État africains, parmi lesquels Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame du Rwanda et l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara. La coordination des mouvements de l'Azawad a envoyé ses représentants à cette cérémonie, mais ils ne vont pas signer le document, même s'ils ont donné. La CMA demande la réouverture des négociations. Pour la communauté internationale, cela n'est pas possible, mais toutefois, les portes de la signature leur seront ouvertes. Pour bon nombre de Maliens, la signature de cet accord doit être synonyme de paix. Mais tel ne sera pas le cas, car les groupes d'autodéfense ont été attaqués ce matin à Ménaka par les hommes de la CMA. Ça s'est passé dans la localité de Tine Fatima, située à 65 km de Ménaka, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Deux villages ont été attaqués par Boko Haram cette semaine dans le nord-est du Nigeria. Au moins 55 civils ont été tués, indiquent aujourd'hui les habitants et un représentant d'une milice locale d'autodéfense citée par l'AFP. Des maisons ont été brûlées. Par ailleurs, de nombreux insurgés lourdement armés ont tenté d'attaquer Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est, mercredi soir, mais ils ont pu être repoussés par les soldats d'une caserne à proximité, selon l'armée et les habitants.
La milice des Chabab a capturé deux bases du gouvernement dans la région du Bas-Chabélé, en Somalie, signale des responsables locaux. Camille Gros-Didier.
Le gouverneur du Bas-Chabélé, Abdelkader Mohamed, a dit à la Voix de l'Amérique que des miliciens lourdement armés ont lancé des attaques contre les villes d'Oudegle et de Moubarak tôt vendredi. Ces localités sont situées à environ 75 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Plusieurs soldats gouvernementaux auraient été tués au cours de l'attaque. Le gouverneur a dit qu'il mobilisait ses troupes pour reprendre le territoire. Les sites attaqués étaient gardés par des troupes de l'Union africaine jusqu'à il y a deux mois. Lorsqu'elles sont parties, la sécurité a été transférée à des soldats somaliens. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué une visite sans précédent en Somalie, où il a rappelé que les États-Unis sont prêts à aider à former l'armée somalienne et à y intégrer des forces régionales.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs centaines de migrants à bord d'un navire en perdition ont été secourus aujourd'hui au large de l'Indonésie. Salwa Jafari nous en dit plus.
Le Rafio était en perdition depuis deux mois. À son bord, 300 personnes affamées, exténuées. Un drapeau noir flotte sur son mât en signe de deuil. Une dizaine de passagers sont morts en route. Leurs cadavres ont été jetés dans l'océan Indien. La mer d'Andaman s'est transformée en une Méditerranée de l'Asie traversée par des groupes toujours plus nombreux de migrants musulmans venus principalement de Birmanie, parfois du Bangladesh, dans l'espoir d'une vie meilleure en Malaisie ou en Indonésie.
Je ne veux pas retourner au Bangladesh. Nous sommes très pauvres.
La Thaïlande, de longue date accusée de laisser faire ce trafic d'êtres humains sur son territoire, vient de réagir en convoquant le 29 mai un sommet d'urgence avec une quinzaine de pays concernés. Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch, Asie, explique.
Il faut qu'il y ait une concertation entre les gouvernements. Il faut arrêter de jouer un ping-pong humain avec les gens et leur permettre d'accoster.
Entre-temps, la proposition du gouvernement thaï de construire des refuges pour les rescapés déchaîne déjà l'hostilité des populations locales qui n'ont nulle envie de cohabiter avec ce qu'ils considèrent des parias.
Des secouristes au Népal ont pu localiser la carcasse de l'hélicoptère américain qui s'est écrasée lors d'un vol de secours il y a 3 jours. Selon les autorités, les 8 personnes à bord, 6 marines américains et 2 soldats népalais, n'ont pas survécu.
Les djihadistes du groupe État islamique ont lancé une série d'attaques sur plusieurs fronts dans la province clé d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, dans leur dernière tentative en date de reprendre l'initiative sur le terrain.
En Israël, nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, l'un des plus à droite de l'histoire du pays. Monsieur Netanyahou a finalement obtenu hier soir, par la plus étroite des marges, la confiance du Parlement pour son gouvernement. Lors du premier conseil des ministres, il s'en est tenu à des propos assez vagues pour ne pas alarmer les capitales étrangères.
Les 12 jurés qui délibèrent depuis mercredi sur le sort de l'auteur des attentats de Boston, Jouhassan Naef, doivent remplir un formulaire compliqué de 24 pages, divisé en 8 sections. Ce sont les mêmes jurés qui avaient décidé le 8 avril, après 11 heures de délibération, que Sarnaef, 21 ans, était coupable des 30 chefs d'accusation retenus contre lui.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Bagessi Koura.
La société britannique Cairn Energy est très optimiste sur les ressources pétrolières du Sénégal. Selon ses estimations, les réserves de pétrole contenues dans ses blocs au large du Sénégal pourraient dépasser 1 milliard de barils à l'issue d'une réunion tenue jeudi. Cairn Energy prévoit de creuser à partir du 4e trimestre 2015 jusqu'à 6 nouveaux puits au large des côtes sénégalaises. La phase initiale du programme de forage en 2015 sera centrée près du puits SNE-1 sur lequel Cairn Energy a découvert du pétrole l'an dernier. En Afrique du Sud, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi à Johannesburg. Ils accusent la France du soutien à la filière charbon dans le pays, qui assure près de 90% de la production d'électricité locale. Les manifestants, soucieux de la pollution, dénoncent en particulier la construction par le groupe français Engie d'une centrale à charbon de 600 mégawatts dans le nord du pays. En 2013, en Afrique du Sud, le président français François Hollande avait salué ce contrat d'une valeur annoncée de 1,5 milliard d'euros. Et puis enfin, le gouvernement brésilien a annoncé jeudi que la Chine allait investir 50 milliards de dollars notamment dans des infrastructures pour faciliter les exportations du géant sud-américain, où le premier ministre chinois Li Keqiang est attendu mardi. Selon la diplomatie brésilienne, les échanges commerciaux entre la Chine et le Brésil sont passés de 3,2 milliards de dollars en 2001 à 83 milliards de dollars en 2013.
C'était la Minute Éco avec Bagessi Koura. Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
François Zaoui à la tête de l'équipe du Niger, ça se murmurait, c'est désormais officiel.
L'Ivoirien a été nommé nouveau sélectionneur du MENA et aura pour mission de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ancien international ivoirien, François Zaoui avait entraîné les éléphants atteignant la finale de la CAN 2012. Il a récemment été limogé de son poste d'entraîneur de l'AS Kaloum après l'élimination du club guinéen en 8e de finale de la Ligue africaine des champions. Au Niger, il succède au franco-allemand Gernot Rohr.
Masters de Rome, c'est du tennis.
Le Suisse Roger Federer, numéro 2 mondial, s'est qualifié pour les demi-finales où il pourrait retrouver son vieil adversaire, l'Espagnol Rafael Nadal. Federer a battu le Tchèque Tomáš Berdych en 1h06 de jeu et en 2 manches, 6-3-6-3. Nadal affrontera tout à l'heure le Suisse Stan Wawrinka.
Playoff NBA, championnat de basket nord-américain.
Après 6 années de disette, Cleveland s'est qualifié pour la finale de la conférence Est hier soir. Revenu l'été dernier dans l'Ohio après 4 saisons à Miami, King James, je veux bien sûr parler de LeBron James, a propulsé les Cavaliers en finale de conférence pour la première fois depuis 2009. Cleveland a décroché la 4e victoire, synonyme de qualification à Chicago, devant des Bulls complètement dépassés, le score 94-73. À l'ouest, les Clippers sont laissés échapper leur billet pour la première finale de conférence de leur histoire. Après un 4e quart-temps catastrophique contre Houston, les Rockets se sont imposés 119-107 et ont décroché un 7e et dernier match. Ce sera dimanche dans leur salle.
Les sports avec Nicolas Pinault, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chers Romain Dorcy, les Morgan et Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour.
À Bujumbura, le coup d'État a donc échoué. Le président burundais Pierre Nkurunziza a regagné ce vendredi son palais présidentiel et il s'est adressé ce soir à la nation. Le pouvoir burundais a tremblé mais n'a pas vacillé. Que faut-il attendre des prochaines semaines et notamment les élections? Nicolas Pinault a joint Thierry Vircoulon d'International Crisis Group.
Il y a une très très grande peur à Bujumbura en ce moment, donc il est très difficile de prédire ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais je crois qu'un des éléments importants va être de savoir si l'opposition va reprendre ces manifestations de rue contre la candidature du président Nkurunziza ou si au contraire elle va faire maintenant profil bas.
Pourquoi ce coup d'État n'a pas marché, selon vous ?
Ce coup d'État n'a pas marché pour, à mon avis, deux raisons. La première, c'est évidemment que les putschistes n'ont pas réussi à rallier assez d'unités militaires derrière eux. La population et l'opposition qui manifestaient à Bujumbura depuis trois semaines n'ont pas rejoint le mouvement également et n'ont pas pris, si je puis dire, la rue à Bujumbura.
Mais c'est étonnant que l'armée burundaise n'ait pas suivi, selon vous ?
Il y a deux conceptions de la neutralité politique qui s'opposent dans l'armée burundaise. La première conception, c'est celle qui consiste à dire qu'il ne faut pas s'engager dans des combats politiques. Ce n'est pas l'affaire de l'armée de faire de la politique ou d'entrer dans des combats politiques. Et l'autre qui consistait à dire simplement que l'armée doit être fidèle au pouvoir. Deux visions différentes de la neutralité. Et je crois que ces deux visions ont joué et qu'une bonne partie de l'armée est restée en dehors de ce combat qu'elle voyait comme un combat politique.
Est-ce que sur cette crise, la tension n'a pas été trop portée sur Bujumbura alors que le reste du pays est resté relativement calme ?
Je ne sais pas s'il faut appeler l'absence de réaction soutien ou non. Est-ce que le fait de ne rien faire est considéré comme un soutien ? On verra ça lors des élections, si élections il y a, et on verra quel est le taux d'abstention au Burundi.
Dans ces conditions, peut-on vraiment organiser les législatives le 26 mai et la présidentielle le 26 juin prochain ?
Écoutez, je m'ai dépassé les 100 000 Burundais qui ont fui leur pays. Je crois que c'est un signal que le pouvoir devrait écouter. Il est difficile de dire que tout va bien au Burundi alors que la population est en train de s'enfuir, et notamment vers la Tanzanie.
On écoutait Thierry Vircoulon d'International Crisis Group.
Au Mali, les rebelles ont annoncé qu'ils ne signeraient pas le texte de l'accord d'Alger. Et pourtant, Bamako a déplacé une palette de chefs d'État africains. Les Nations Unies sont représentées à Bamako par le chef des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou. La coalition des mouvements de l'Azawad, CMA, qui refuse de signer l'accord, avait pourtant accepté de le paraffer. Pour le journaliste Sada Diarra, directeur du quotidien La Nouvelle Roue, la CMA n'est rien moins qu'un groupe d'irrédentistes.
Si vous avez suivi les péripéties de ces négociations, ça a duré 7-8 mois. Ensuite, il s'agissait de paraffer. Le gouvernement malien a paraffé dès le 1er mars. Ils ont refusé. La médiation est partie jusqu'à Kidal pour les prier de vouloir paraffer. Ils ont eu de nouvelles exigences. Il a fallu que toute la médiation internationale et même la France mettent la pression sur eux pour qu'ils acceptent de paraffer hier à Alger. Mais en paraffant, ils ont dit que bon, ben, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas signer. Ils ne signeront jamais sans qu'il y ait, comment dirais-je, d'autres négociations avec le gouvernement malien. En réalité, ils ont une position maximaliste qui leur vient du sentiment qu'ils sont en position de force. C'est ça la réalité.
Alors, est-ce qu'il était nécessaire pour le pouvoir central de Bamako d'organiser une cérémonie en grande pompe en l'absence de l'adversaire ?
C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. On va mobiliser d'autres personnalités qui ont d'autres soucis. Hein, si chacun a des problèmes chez soi. Et ensuite, ça va être beaucoup de millions de francs CFA déjetés par la fenêtre. Ce n'était pas du tout la peine.
La communauté internationale et Bamako peut-être espère que la rébellion du MNRA va signer peut-être après par le jeu de la diplomatie.
Chacun l'espère en réalité. Mais le MNLA, vous savez, il n'existe que des noms. C'est aujourd'hui un groupe irrédentiste qui, si on regarde bien, est adossé à une puissance. C'est ça la réalité.
Est-ce que tout refus de la CEMA de signer un accord remettra tout le processus de paix en cause ?
C'est possible. Parce qu'en ce moment, il y a une remise en cause du processus de paix. Dans la mesure où les différents cessez-le-feu sont violés, depuis, comment dirais-je, la conquête de Ménaka par des groupes pro-gouvernementaux, c'est des attaques multiples. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que la CEMA ne fasse des attaques d'ici de là, d'ici de là. Aux dernières nouvelles, en début de semaine, ils voulaient s'attaquer à Tombouctou. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une paix plus ou moins chaude. Il n'y a pas tout à fait de processus de paix. On ne sait pas ce qu'ils veulent, les irrédentistes, mais on verra.
Sada Diarra, directeur du quotidien malien La Nouvelle Roue, joint à Bamako par Jean-Roger Billon.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, ce qui fait l'actualité, c'est le retour hier de Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président Thomas Sankara. C'est la deuxième fois qu'elle retourne au pays depuis 27 ans, lorsqu'elle s'est exilée en France au lendemain de l'assassinat de son mari. Cette année, son retour s'est effectué dans un contexte post-Compaoré. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Dieudonné Zongrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
C'est un accueil triomphal parce que ce 14 mai 2015, aux environs de 17h GMT, c'est par un vol régulier d'Air France qui l'a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou. Et une foule de sankaristes et de non-sankaristes l'attendaient. C'est vraiment une foule de grands jours qui a accueilli l'épouse du père de la révolution burkinabé.
Alors, moi, j'ai vu quelques images. Hein, et quand on regarde les visages, la plupart de ces gens n'étaient pas nés quand son mari était au pouvoir ou quand elle quittait le Burkina. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui encore le nom de Sankara continue de faire autant d'unanimité?
Vous avez raison, c'est une jeunesse dont la plupart n'a pas connu Sankara de son vivant. Mais vous savez, le mythe est demeuré et puis l'idéal sankariste est aujourd'hui vivace. Ceux qui ont fait l'insurrection des 30 et 31 octobre, en fait, il faisait du Sankara, du sankarisme sans Sankara. Donc aujourd'hui, les idéaux de Sankara sont désormais à la mode. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait de consommer burkinabé, il nous disait de nous prendre nous-mêmes en charge.
Et ce matin, elle a tenu à rendre hommage aux martyrs du 30 et 31 octobre et aussi à Norbert Zongo. Hein?
Oui, au martyr de Traï à Norbert Zongo, qui a été un des journalistes justement qui a un peu titillé le pouvoir de Blaise Compaoré sur les travers de ce régime. Et elle a été reçue aussi ce matin par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Et demain, sans trahir un secret, elle sera au milieu des sankaristes pour la convention de cette obédience-là.
Et justement, qu'est-ce qu'elle peut bien leur apporter?
Ben, vous savez, c'est une icône morale. Et quand on dit l'épouse de Thomas Sankara, quand même, ça va un peu être le ciment, du moins beaucoup l'espèrent, entre les sankaristes dont l'introuvable unité était l'une des faiblesses insignes, parce que les sankaristes n'arrivaient pas à s'unir. Et je crois que Mariam Sankara peut, en tant que personnalité morale, en tant qu'icône, contribuer justement à rapprocher les différents mouvements sankaristes. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est venue pour ça. Ça, c'est un. Et aussi, pour un peu répondre à l'audience concernant, en tout cas, l'affaire qui concerne Thomas Sankara.
Dieudonné Zongrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
B.B. King est mort. Il est décédé hier soir à l'âge de 89 ans chez lui, à Las Vegas, où il recevait des soins médicaux à domicile à sa sortie d'hôpital. La santé de B.B., un diabétique, a commencé à se détériorer en octobre dernier quand il a été pris d'un malaise pour cause d'épuisement et de déshydratation. Idrissa Seydou Dia revient sur la carrière du roi du blues.
Une longue carrière de presque 70 ans, avec plus de 50 albums et 15 Grammys à son actif, B.B. King est notamment célèbre pour des tubes devenus des classiques comme « Three O'Clock Blues »,« The Thrill Is Gone » ou « Rock Me Baby ». les critiques, B.B. King était le guitariste blues le plus populaire d'Amérique. Incontestablement, en atteste son influence reconnue sur des musiciens comme Eric Clapton. Ils ont enregistré en 2000 l'album Riding with the King, qui leur a valu un Grammy. George Harrison des Beatles et le groupe U2, When Love Comes to Town, enregistré en 1989. Mais il aura fallu, somme toute, un morceau plutôt pop pour que le grand public découvre le grand King en 1969. The Thrill Is Gone. Son vrai nom, Riley B. King, il a vu le jour le 16 septembre 1925 dans le Mississippi. Après les chants de coton et le gospel à l'église, il s'est rendu compte que le blues était plus rentable en chantant et en jouant de sa guitare dans la rue. Vers 1948, il se fait remarquer dans des shows à la radio à Memphis, dans le Tennessee, avant de devenir officiellement un des DJ de la même station, WDIA, se faisant appeler Bill Street Blues Boy, puis Blues Boy et finalement B.B. B.B. est déjà au panthéon du blues et du rock and roll. Il s'est vu décerner deux médailles par les anciens présidents Bush, a enregistré un album Hot Red and Blue avec le stratège politique de Bush père, Lee Atwater, et a chanté avec le président Obama à la Maison Blanche, Sweet Home Chicago. Pendant toutes les années qu'il a passé à sillonner le monde, B.B. King avait toujours à ses côtés Lucille, sa précieuse guitare qui était unique. B.B. King, mort à l'âge de 89 ans, le blues a perdu son roi et l'Amérique une légende, a dit le président Obama.
Les amis, votre gars Roger Montou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ce vendredi. Nous allons écouter de la bonne Island Music, la musique des îles, salsa, merengue, zouk, reggaeton. On sera ensemble. On continue avec notre sujet de cette semaine. Ne ratez pas votre émission préférée, les amis. Appelez-nous au 001-202-619-3140. Je répète ce numéro, 001-202-619-3140. Je vous promets qu'aujourd'hui, vendredi, ça sera le show dans RM Show. Ne ratez pas, c'est la chaleur. L'avion va décoller. Vos messages sur notre groupe Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Cette édition touche à sa fin. On remercie Lionel Gaïma qui a dirigé la production ce soir avec l'assistance de Souleymane à la console. Présentation Morgane Guériec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.